Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Aujourd'hui, mon invité, c'est Ludovic Cuzieux, le cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour Ludovic.
Bonjour Bérénice.
Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Alors, on va parler de la conjoncture, on va parler du marché du crédit. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Artemis Courtage, nous présenter votre business model et puis aussi voilà, le nombre d'agences que vous avez?
Artemis Courtage, c'est une entreprise que j'ai cofondée en 2009. Donc, on a fêté l'année dernière nos 15 ans d'existence. Au départ, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le courtage en crédit immobilier et l'assurance emprunteur. On est donc l'intermédiaire entre des particuliers qui veulent financer un appartement ou une maison et les banques. Ça, c'était le modèle au départ. C'est une entreprise qui a bien grandi puisqu'aujourd'hui, on a une centaine de points de vente dans toute la France et un peu plus de 500 collaborateurs. Et puis on a aussi diversifié nos activités parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement au fur et à mesure qu'on grandissait que nos clients nous rappelaient, revenaient nous voir pour nous poser des questions sur d'autres produits ou d'autres services, savoir si on pouvait les aider à financer une autre assurance, à placer leur argent, à restructurer leurs dettes ou à avoir un nouveau projet. Donc on a effectivement on a étoffé notre offre et on propose aujourd'hui une dizaine de produits et services qui sont autres que le crédit immobilier et l'assurance emprunteur.
J'imagine que la crise est passée par là aussi. Enfin, survit celui qui sait se diversifier.
C'est le cas, c'est exact, vous avez raison. On avait entrepris ce début de diversification avant même les premiers confinements et la première crise du Covid. Donc on avait déjà posé les premières pierres de cette diversification. On avait déjà une cellule de commercialisation d'immobilier neuf. On avait déjà une entreprise qui proposait des crédits hypothécaires. Donc on avait déjà commencé, mais effectivement, on a continué à diversifier cette offre et ça nous a particulièrement aidé à bien traverser la crise du crédit immobilier qui a eu lieu en 2023 et en 2024.
Alors aujourd'hui, vous êtes 85 agences, c'est ça, hein, sur toute la France.
Alors on effectivement 85, sauf qu'on est en pleine opération d'acquisition d'une entreprise de courtage en crédit immobilier et en assurance qui compte une quinzaine d'agences. Donc on va repasser le cap des 100 agences là bientôt.
Oui, donc vous allez passer de 85 à 100. Le business model, c'est un business model qui, donc vous l'avez dit, il y a des collaborateurs, mais il y a aussi des mandataires, si je ne me trompe pas.
Exactement, c'est un réseau mixte. On s'est aussi adapté aux nouvelles pratiques et nouvelles façons de travailler, c'est-à-dire un peu plus à distance, un peu moins en présentiel et un peu moins au bureau, un peu plus chez soi. Donc on a à peu près tous les types de statuts qui vivent ensemble dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez travailler chez Artemis Courtage en étant un courtier salarié, vous pouvez aussi travailler en étant un courtier mandataire, c'est-à-dire indépendant juridiquement et financièrement. Tous les statuts sont proposés pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de nos collaborateurs.
C'est vrai que de nos jours, beaucoup d'entreprises, on va dire, s'adaptent au télétravail et le métier de mandataire, on va dire, cette nouvelle façon de travailler est pas mal demandée. Concernant justement les offres que vous proposez, alors vous les avez citées tout à l'heure, quelles sont celles qui, on va dire, sont en plein essor? Qu'est-ce qui marche? Vous faites par exemple de la gestion privée. Vous faites qu'est-ce qui est très demandé en ce moment? On sait que la transaction revient. C'est quoi en fait qui marche le plus?
Bah, ce qui fonctionne bien en ce moment, effectivement, le métier qui a un lien direct sur la gestion des finances personnelles, quand on procède à un crédit, bien souvent, il y a aussi parfois de l'épargne résiduelle à placer. Donc, on a aussi une filiale qui est une filiale de gestion de patrimoine et qui s'occupe d'adresser les problématiques de finances personnelles de nos clients, c'est-à-dire ouvrir un contrat d'assurance vie, financer des parts de SCPI, ce genre de produits, c'est des produits qui fonctionnent plutôt bien et qui sont très souvent à la demande des clients. On a d'autres services qui sont des services de prêts dits hors normes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas forcément très bien financé par les banques de détail parce que un peu hors des sentiers battus. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, les prêts hypothécaires, les prêts viagers hypothécaires, tout ce qui s'adresse aussi à une population aujourd'hui qui est vieillissante et qui n'a pas forcément de solution de crédit très adaptée. Nous, on essaye de proposer des solutions un peu innovantes pour pouvoir financer des successions, pouvoir financer une résidence secondaire, pouvoir financer des projets, des projets de seconde partie de vie qui ne sont pas forcément très bien adressés par les
bien
banques.
Sûr.
Et nous, on essaye d'apporter des solutions à ces sujets.
C'est vrai qu'il faut le dire, hein, il y a toute une population qui a été totalement délaissée hein, par les banques hein, à la suite de l'augmentation des taux. On parle souvent des primo-accédants qui sont une population relativement très jeune, mais il y a aussi les personnes âgées, ou en tout cas vieillissantes, pas, avant d'être âgées, on va dire, qui ont du mal aussi à trouver des crédits.
C'est exactement à ces personnes-là qu'on s'adresse. Les primo-accédants ont été les premières victimes de la crise du crédit, mais pour des considérations d'endettement. Les personnes plus seniors, plus âgées, soit en fin de carrière professionnelle, soit en début de retraite, ont des problématiques pour se financer qui sont un peu différentes. Soit parce que l'âge envisagé à la fin du crédit est trop important, soit parce qu'il y a des problématiques d'assurance emprunteur. Et donc, c'est des populations qui sont mal appréhendées en termes de risque par les banques. Et nous, on apporte des solutions les plus innovantes possibles pour que leurs projets puissent prendre vie, que ce soit des projets immobiliers ou des projets, je vous dis, soit de financement de droits de succession, soit des projets de financement de biens mobiliers ou je sais pas par exemple financer vous avez une maison en bord de mer, vous voulez financer un petit bateau pour faire des balades, c'est possible de le faire en ayant accès au crédit et c'est pas toujours très bien appréhendé par les banques. On propose des solutions en immobilier ou en mobilier pour ce type de population et c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs en 2024, tout comme la restructuration de dette, le rachat de créances quand on a plusieurs lignes de crédit qui ne concernent pas forcément qu'un bien immobilier, qu'on veut les regrouper en une seule ligne pour pouvoir se donner un peu de respiration et envisager, par exemple, un nouveau projet immobilier ou l'achat de quelque chose d'autre. C'est possible, mais parfois il faut assainir un peu ses crédits et ses finances en les regroupant et en se redonnant un peu d'oxygène. Et une nouvelle capacité d'emprunt. Ces métiers-là et ces services-là fonctionnent bien dans mon groupe Artemis Courtage.
Alors, un petit mot peut-être. Donc, c'est vrai qu'il y a eu votre conférence de presse cette semaine à laquelle j'ai assisté. Vous avez évoqué donc l'espoir, on va dire, d'une nette reprise en 2025. Moi, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu sur la production de crédit. Il y a eu pas mal de changements, notamment la part du locatif versus la part des résidences principales. C'est vrai que les investisseurs sont un peu aux abonnés absents. On les voit, enfin, ils sont en fuite, on va dire. Après, ça donne pas envie d'investir avec tout ce qui se passe. Mais et quelle est votre vision du terrain ?
Ma vision terrain, elle est que effectivement la part des investisseurs locatifs particuliers dans la part totale de mes clients cette année, en 2024, donc. C'est 10%. J'ai financé 10% des projets en investissement locatif pur, c'est-à-dire tout type d'investissement locatif, de la location meublée, nue, des projets de défiscalisation, des financements de part de SCPI. Tout ça donne 10% de la production. Vous voyez bien que c'est peu. En comparaison, dans les années normales, c'est-à-dire avant crise du crédit et crise du Covid, j'avais entre 18 et 20% de ma production de crédit qui était destinée à financer de l'investissement locatif. Donc on est sur quasiment une production divisée par deux en un peu moins de 5 ans. On voit bien que c'est aussi la conséquence d'absence de vision des gouvernements successifs et du ministre du Logement qui se succède à grande vitesse. Il n'y a pas de statut de bailleur privé, comme ça a été appelé des vœux de certains réseaux de transactions et de nous-mêmes. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir un cadre particulièrement attractif. La crise du crédit qui a fait passer les taux de crédit de 1% à plus de 4% a rendu par nature des projets où finalement le prix du mètre carré lui a pas baissé aussi vite. L'intérêt fiscal, il était faible, voire nul. Donc on s'est retrouvé avec, et puis j'allais oublier quasiment le plus important, les normes d'endettement HCSF qui sont particulièrement pénalisantes pour un investisseur locatif. On se retrouve avec, au-delà de la faiblesse de l'offre, avec un espèce de parcours du combattant et des barrières pour arriver jusqu'au financement d'un investissement locatif qui sont trop hautes et qui rebutent maintenant beaucoup de monde. Ça devient compliqué même de financer un studio ou un deux pièces pour envisager soit ses vieux jours, soit de pouvoir loger ses enfants une fois qu'ils auront l'âge de poursuivre leurs études. C'est des projets qui doivent reprendre du sens et qui doivent reprendre un peu leur place dans la construction d'un patrimoine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, moi, dans ma production, c'est la plus faible année depuis la création d'Artémis Courtage. J'avais jamais financé 10% de mes projets sur l'investissement locatif. On était toujours au-delà de ça, et je vous dis, dans des années normales, c'était plutôt aux alentours de 18-20%. Donc on espère effectivement que l'abaissement du prix du mètre carré cumulé à des taux de crédit immobilier qui ont aussi bien baissé pendant toute l'année 2024, que ça va retrouver un peu de potentiel aussi de potentiel d'intérêt fiscal. Pour que certains investisseurs locatifs retrouvent le chemin de ces projets.
Après, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment gagné. Enfin, alors oui, là, le budget est passé, mais quand on regarde dans le détail, vous l'avez dit, il n'y a pas de statut du bailleur privé. La ministre du Logement a dit qu'un groupe de travail allait potentiellement étudier le projet, mais c'est toujours en attente. Statut, le dispositif LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui était quand même maintenant le seul dispositif, on va dire, intéressant. Là, il est retoqué au moment de la revente. Les loyers perçus qui faisaient partie de l'amortissement seront réintégrés à la taxation de la plus-value. La location courte durée avec la loi Lemeur en prend un coup aussi. C'est vrai que ça donne pas envie d'investir dans la pierre. Faut dire ce qui est.
On va dire que tout est fait pour effectivement repousser ou rebuter, et qu'il faut être vraiment très motivé pour aujourd'hui arriver au bout du chemin de l'investissement locatif. Le problème, c'est que c'est aussi pour ça qu'on plonge doucement mais sûrement dans la crise du logement, c'est que il a été très longtemps compliqué d'obtenir un crédit pour financer sa résidence principale. Une crise aussi de la location avec beaucoup de demandes et peu d'élus. Difficile de loger aujourd'hui les étudiants. Sur tout ce qui est logements sociaux, c'est aussi très compliqué. Alors effectivement, je comprends que les caisses de l'État soient pas très remplies, voire franchement vides, et qu'on creuse notre dette année après année. Mais si l'État ne parvient pas à construire lui-même ses logements, il peut peut-être quand même repenser à inciter et aider les investisseurs privés qui, pour le coup, font un peu le boulot à sa place. Ça n'a pas l'air d'être effectivement à l'ordre du jour de 2025.
Donc, est-ce que ça vous effraie, vous, ça, en tant que courtier, que professionnel du secteur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous...
Ça ne m'effraie pas parce que on a aussi l'habitude on a l'habitude d'avancer et de développer avec des offres commerciales, soit dans les réseaux de Transac, soit chez les courtiers et aussi dans les banques, sans attendre l'aide de... Et c'est d'ailleurs pas vraiment son boulot, sans attendre l'aide des pouvoirs publics ou du gouvernement. Je pense que ça peut se régler aussi, effectivement, avec un prix du mètre carré qui baisse un peu et des taux de crédit un peu moins forts. On va retrouver aussi du potentiel de un peu plus d'attractivité sur des rapports d'investissement locatif qui étaient franchement défavorables, où on avait des mensualités de crédit qui étaient bien supérieures au loyer espéré, et on disait que l'opération était finalement pas très intéressante et qu'on reportait son projet. Donc ce phénomène de report à un moment où vraiment les taux étaient vraiment trop hauts et les prix n'avaient pas baissé du tout, le bon moment pour remettre le nez dans la potentialité d'investissement locatif, c'est peut-être maintenant. On peut regarder maintenant des potentiels de loyers qui ont aussi un peu qui se sont un peu appréciés avec l'inflation. On peut regarder si effectivement il n'y a pas des opportunités qui reviennent là au bout du jour avec un contexte économique un peu plus favorable.
Bah écoutez, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, David Cuisieux. En tout cas, on sera ravis de vous recevoir dans une émission, un plateau pour discuter de la suite et de cette année 2025. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci Bérénice.
Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.